Annoncer la parole de Dieu, c'est toujours un privilège. C'est toujours quelque chose de sérieux. Et à travers, en tout cas, comme ça pour moi, mais c'est comme ça, je pense, pour beaucoup de prédicateurs. Le message qu'on va annoncer, Dieu nous le fait vivre. Alors, je vais avoir besoin que vous ayez énormément de compassion et de patience ce matin avec moi. J'aimerais ça qu'on commence par le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Verset 11. Ce matin, on va avoir besoin de s'arrêter. J'aimerais ça qu'on se souvienne aussi Jean 13, quand Jésus il était avec ses disciples. Puis il a dit, je vous donne un commandement nouveau. De vous aimer les uns, les autres. Il est minuit moins une. Ce matin, on va naviguer dans l'Épître aux Romains. Et je vais avoir des questions pour vous autres. J'aimerais ça qu'on se place dans le contexte un peu, dans ce que l'Épître aux Romains nous raconte. Et avant ça, ben, je vais vous donner les trois points de mon message ce matin. Le premier point, c'est l'amour agapé, l'amour filéo, deux inséparables. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, ça va être panneau d'avertissement. Mon troisième point, ça va être le mode de fonctionnement. Donc, je répète, l'amour agapé, l'amour filéo, deux inséparables. Deuxième point, panneau d'avertissement. Et troisièmement, mode de fonctionnement. Ou mode d'opération. L'Épître aux Romains est un chef-d'œuvre dans la littérature biblique. C'est là où Paul, c'est mon humble opinion, mais je pense qu'il y a beaucoup de théologiens qui seraient d'accord avec ça, synthétise toute la théologie qui est dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais ça juste vous décrire, chapitre par chapitre, le message de chacun des chapitres, juste pour qu'on se mette dans le contexte. Romains 1, c'est la révélation naturelle. Donc, Dieu se fait connaître par les hommes, à travers la terre, le ciel, la mer, les animaux, tout ce qu'il a mis à notre disposition. Deuxième chapitre, la thèse principale du chapitre, c'est la loi. Les non-croyants ne peuvent pas s'excuser, parce que la loi est écrite dans le cœur. Et nous, en tant que croyants, c'est la même chose. Troisième chapitre de l'Épître aux Romains, la dépravation totale de l'être humain. Nul ne cherche Dieu. Qui sont d'ailleurs des propos qui sont utilisés dans deux psaumes par le psalmiste. Si je vais par cœur, je pense que c'est le psaume 13 et le psaume 54. Ou psaume 14, psaume 53, en tout cas, bref. Romains 4, la foi qui est agréable à Dieu. Paul parle d'Abraham. Cinquième chapitre, la justification par la foi. Par la foi. Sixième chapitre, la grâce. C'est la grâce. Est-ce qu'on va pécher parce qu'on a la grâce? Non. Romains 7, sa fameuse thèse à Paul, « Je fais tout ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire. » Romains 8, 1, notre espérance. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Peu importe. Tout ce qui va arriver, il n'y a aucune condamnation, si on est en Jésus-Christ. Romains 9, l'alliance, le culte, les promesses, l'élection, thèse principale du chapitre 9. Chapitre 10, comment Dieu opère le salut par sa parole. Romains 10, 14, la parole vient de ce qu'on la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Paul va dire, comment vont-ils croire si on n'envoie pas des prédicateurs? Romains 11, les païens, les gentils, greffés à l'olivier franc. Et là, on arrive dans Romains 12, qui va être le texte que je vais me servir ce matin pour mon message. Paul nous donne une liste de comportements à adopter une fois qu'il a émis, premièrement, qu'on est inexcusable devant Dieu, que Dieu nous a élus par sa volonté, pas parce qu'il était obligé, et qui nous fait la grâce de nous mettre dans sa famille. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Romains 12, 1 à 8. Ça, c'est seulement pour se faire un petit rafraîchissement. Mais le texte de ce matin sur lequel je vais prêcher, c'est Romains 12, 9 à 12. Fait que si on peut lire Romains 8, Romains 12, 1 à 8, s'il vous plaît.
OK, Romains 12, versets 1 à 8, version TOB 2010. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? Qu'on l'exerce en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre, celui d'enseigner? Qu'il enseigne. Tel autre, celui d'exhorter? Qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse avec sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie.
Amen. Je vais vous poser une première question, puis celle-là, je ne veux pas que vous y répondiez tout de suite. Je vais vous demander la réponse à la fin du culte. Puis c'est une question bien terre-à-terre. Bien terre-à-terre. Si un cultivateur veut produire du lait, il y a une chose qui est obligée de faire. Il n'y a pas le choix. Si mon message est compris, vous allez me donner la réponse à la fin du culte. Sinon, ben, shame on me. On va parler de l'amour agapé ce matin, de l'amour filéo. Je ne sais pas si vous êtes à... Si vous connaissez les quatre grands termes d'amour en grec utilisés dans nos écritures. En français, évidemment, on n'a pas de terme qui va équivaloir à ces quatre termes-là. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour alliantiel, l'amour parfait, l'amour saint. Deuxième amour, c'est l'amour filéo. Un amour filéo, c'est l'amour fraternel. Mais dans cet amour-là, la racine du mot implique un étranger. Après ça, on a l'amour storgé, qui est l'amour parental. Et après ça, on a l'amour eros. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Donc, ces quatre amours-là, puis en passant, il y a une seule place dans notre humanité sur cette terre où on peut expérimenter ces quatre amours-là, c'est dans le mariage. La seule place où on peut expérimenter agapé, philéo, storgé, eros, c'est dans le mariage. Et en tout cas, c'est cela. Fait que, là, j'aimerais ça juste qu'on lise Romains 9 à 12 et je vais entamer mon texte de prédication.
Romains 12, versets 9 à 12, version top 2010. Que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent. Servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière.
Amen. Donc, je vais me concentrer tout de suite sur, pour l'instant, donc mon premier point, l'amour agapé, l'amour filio, deux inséparables, c'est le verset 9 et le verset 10. Donc, ici, que l'amour soit sincère. Et le mot en grec, évidemment, c'est l'amour agapé. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Qu'est-ce que ça fait dans votre vie qu'on ait un Dieu trinitaire? Dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça fait? Y en a-t-il qui veulent se risquer? Un Dieu trinitaire. Notre Dieu est un Dieu de relation. Il est relation. À l'intérieur de la Trinité, il y a une interpénétration des trois personnes. Je m'explique. À l'intérieur de la Trinité, il n'y a personne qui se cache. Il n'y a personne qui va camoufler des informations. Il n'y a personne qui va nuire à l'autre. Autrement dit, je vais donner une image qui est bien boboche, mais ce sont les trois personnes, ce sont trois livres ouverts. Ils ont accès à l'un et à l'autre tout le temps, 24 heures sur 24. Tout le temps, depuis l'éternité passée, l'éternité à venir, toujours, c'est une relation comme nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable de comprendre. On se marie et on a de la misère. On est dans l'église et on a de la misère. On regarde le monde et on a de la misère. Cet amour-là, qu'est-ce que ça fait pour nous dans le quotidien? Les relations, premièrement, la relation qu'on entretient avec Dieu, de notre côté humain, sera jamais totalement compréhensible. Et c'est exactement pour ça qu'on a besoin du Christ Jésus pour comprendre, pour qu'il puisse essuyer notre incompréhension et notre séparation d'avec le Dieu Trine. Et si on a de la difficulté à comprendre et à mettre pas une image, je ne dirais pas une image, mais à se représenter ce que ça veut dire, les relations, la relation qu'on doit entretenir avec notre Dieu, imaginez quand on arrive dans l'église et dans le mariage. Donc là, on se retrouve devant un Dieu saint, devant un amour agapé. En hébreu, le terme hébreu pour cet amour-là, c'est le chesed, un amour alliantiel. Autrement dit, Dieu nous a aimés, il est venu nous chercher où on était, Il a choisi de nous aimer. Puis Romains 5 est clair, hein? À peine mourrait-on pour un juste. Pour un juste. Personne ici, entre vous et moi, qui est juste. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il est venu mourir. Parce qu'il sait que les relations, que ce soit avec lui et entre nous, sont brisées. Sont défaites. Et ça, là, la dépravation totale, là, nul ne cherche Dieu. Je vous en supplie, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas convaincu de cela, demandez à Dieu qu'il brise votre entendement et qu'il vous le montre. Pour que ça vous donne une repentance à salut. L'amour agapé est un amour donc alliantiel. Dieu s'est donné, il est venu nous chercher. Maintenant, cet amour-là est transféré, c'est-à-dire est connecté avec l'amour filéo. L'amour filéo, l'amour fraternel. Le verset 2, Paul, le verset 10, Paul commence et il dit que l'amour fraternel, l'amour filéo, donc l'amour entre les frères et sœurs, en église, en assemblée, veux-tu juste me relire le verset, s'il te plaît?
Le 10, s'il te plaît. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisée d'estime réciproque.
Bon, merci. Nous lie, et c'est le mot que je voulais, se lier. Donc, la communion, en d'autres mots, c'est ça que ça veut dire, d'avoir une commune union. Qu'est-ce que notre commune union? Notre union commune, c'est quoi? C'est Jésus. C'est lui, notre commune union. C'est lui qui nous a sauvés. Alors, on se ramasse en assemblée. Et là, chacun arrive avec son bagage, sa culture familiale. Comment il a été élevé? Comment ci, comment ça? Puis là, il faut mettre ça ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez l'ethnocentrisme. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été vraiment impressionné. Je vais vous l'expliquer. L'ethnocentrisme. Ethno, ça veut dire race. Donc, japonais, chinois, etc. Centrisme. On est centré sur notre race. Donc, ce que ça veut dire, autrement dit, je vous donne un exemple. En 2006, je suis allé en Angleterre. Puis vous savez comme moi qu'en Angleterre, ils conduisent à l'envers. Vous comprenez? Ils conduisent à l'envers. Ils ne sont pas dans le bon bord. C'est eux autres qui sont dans le tort. Donc, ça devient quoi? De l'ethnocentrisme. On dit que eux autres, comment ils font ça? Ils sont dans le champ. Ils sont à côté de la traque. Ça, c'est pour les races. Puis ça, c'est culturel. C'est pas trop pire, parce qu'au Québec, nous autres, on est bien, puis on conduit du bon bord, puis ça va bien, on n'a pas de tort. Bon. Après ça, si on rétrécit un peu, on va dans la culture familiale. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Quand j'étais plus jeune, j'allais coucher chez des amis. Donc là, on a du fun, bababac, là, tu couches là. Puis là, le lendemain matin, tu veux prendre ta douche. Puis là, il arrive un sujet qui est bien intéressant. Je sais pas comment c'est arrivé, mais bref, c'est arrivé ce sujet. Là, la mère de mon ami, elle dit, « Ah, en tout cas, le monde, là, qui s'essuie là, deux, trois fois avec la même serviette quand il sort de la douche, moi, on t'a dit que c'était écœurant. » Fait que là, tu regardes ça, tu dis, « OK. » Je sors de la douche, je suis propre. C'est quoi? Comprenez? Ça, c'est une piquadille, là. C'est un détail. Mais ça devient, on vient à cliver les autres parce que, bing, on pense pas comme eux autres. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'autrement dit, ce qui se passe, c'est que si dans notre culture, puis dans nos présupposés, il y a quelqu'un par une parole, une pensée, qui le dit, là, ça vient faire bing! C'est nos présupposés. Et qu'est-ce que ça fait? Un choc. Ça fait un choc. Puis quand il y a un choc, là, dans nos présupposés, dans comment on pense, puis dans ce qu'on voit, puis dans ce qu'on juge qui est bon, c'est ça que ça fait. Aussi, quand les pharisiens, là, sont avec le Seigneur, là, le Seigneur, il donne une parabole. Puis il dit quoi? Il dit, il y a un pharisien et un publicain qui s'en vont prier au temple. Le pharisien, il va dire, « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme lui, puis que je donne la dîme, puis que blablabla, blablabla. » Le pharisien, le publicain, il est là, puis il se tape sa poitrine, il n'ose même pas rien dire, puis il regarde, puis il dit, « Seigneur, pardonne-moi. » Autrement dit, quand on arrive, là, je vais prendre mon exemple de la serviette, là, quand on arrive dans des choses qui sont différentes culturellement, facilement, le fond de notre cœur, je pourrais très bien dire ceci, « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme eux autres, puis que je change ma serviette à tous les jours quand je m'essuie en sortant de la douche. » C'est aussi pathétique que ça. On est pourri. Puis après ça, on vient dire là, qu'on est... En tout cas, on vient dire qu'on est content d'être ensemble. C'est sérieux. La COVID-19, là, ce qu'elle a fait, là, elle a juste mis nos cœurs en lumière. Point final. C'est ça qu'elle a fait. Puis qu'on pense à tout ce qui se passe alentour du masque, là, je vais vous le dire bien franchement, là, le diable a fait ses besoins dans notre église, puis on a marché dedans. Puis on le sent même pas. La doctrine de la liberté chrétienne, là. Acte 8, pas acte. 1 Corinthiens 8. Romains 14. On n'est pas en train de débattre de moralité ici. Il n'y a personne qui a commis un adultère. Il n'y a personne qui a tué personne. On débat de port de masque. Il est minuit moins une. On est dans tous nos états. Puis quand je vous parlais tantôt là, que l'amour fraternel, là, c'est un amour pour un étranger. Qu'est-ce que ça implique dans nos relations les uns les autres? Honnêtement, il n'y a personne qui a fait ça, puis je m'inclus le premier là-dedans. Soyez-en certains. Est-ce qu'on est déjà allé voir nos frères et sœurs en leur disant « Je t'aime, je pense pas comme toi. Y a-tu moyen qu'on s'assoie ensemble et qu'on en parle doucement, dans l'amour et l'authenticité? » Il n'y a personne qui l'a fait ici. Personne! Ce que ça fait, c'est qu'en ce moment, le conseil d'église, il boite. Et le conseil d'église dans une assemblée, c'est le pilier, c'est le fondement du fonctionnement dans notre église. C'est les anciens, c'est les gens qui sont responsables de mener le troupeau. Et on a cette responsabilité-là. Si, je vais vous dire mon opinion, puis je veux que vous soyez très, très réceptifs. Si l'Église se divise pour le port du masque, vous venez donner la victoire au diable. C'est tout simplement ça qui vient de se passer. Moi, je vais vous dire sincèrement, je suis pas mieux que vous autres, mais j'ai un souhait dans notre Église. Je vous l'ai dit, j'aime notre Église. Je suis un pécheur. Je ne vous aimerai pas parfaitement, mais j'aime notre assemblée. Quand René est venu poser notre escalier à la maison, là, il est venu deux samedis. Puis je ne sais pas combien d'heures René a passé à faire l'escalier à la maison. Mais c'est colossal pour moi le temps qu'il a passé. Puis en passant, là, je nomme René, mais il y a d'autres gens qui sont venus donner du temps chez nous. Puis je ne veux pas vous oublier. Je veux juste donner un exemple. René a passé deux samedis. Puis le deuxième samedi, je parle à Sylvie. Puis là, Sylvie, elle me dit, je me souviens pas, je l'avais appelé pour quelque chose. Je me souviens plus quoi. Puis là, le premier samedi où René était venu, Diane était partie à Sherbrooke parce que bon, il n'y avait plus de garde, elle était partie avec les chiens. On trouvait ça trop compliqué. Fait qu'elle s'en va à Sherbrooke. Et puis là, moi, j'avais fait la petite bebelle, j'avais enlevé les rampes, j'avais commencé. Tu sais, j'avais fait le travail que je pouvais. Puis j'étais content d'être là. Puis là, je regardais ça aller. René qui rentre avec ses affaires, avec Joe. Puis là, entre les outils. Puis là, je regarde ça aller. Puis là, certaines personnes vont me regarder et vont me dire, ouais, tu peux faire tes affaires, fais tes affaires, tu fais rien. Toi. OK. Fait que là, on finit la journée. Puis là, évidemment, René est obligé d'en revenir parce que, bon, ça a été plus long, puis etc. Fait que, j'appelle René puis Sylvie pendant la semaine, mais je ne me souviens pas du sujet, bref. Puis là, Sylvie, elle me dit, tu vas pouvoir prendre congé, là, si tu veux. Fait que, j'ai pas réagi sur le coup. Mais moi, ce que ça me faisait, c'est comme si tu me disais, hey, tu vas te couper ton fun ce samedi. Pour moi, j'avais un plaisir fou d'observer René, comment il analyse, comment il opère, comment ses décisions qu'il prend, puis c'est lui qui est là, puis comment est-ce qu'il gaule ça. J'avais un plaisir fou. Pourquoi? Parce que j'aime les dons que le Seigneur lui a donnés. Comment il est habile, comment il a opéré ça. Et j'ai envie de le connaître, j'ai envie de voir comment lui opère. Je ne les ai pas, ces dons-là. Et je suis heureux de le voir. Honnêtement, puis ça, c'est mon genre à moi, puis je ne vous compte pas des mentries. Je pourrais aller passer probablement une couple de jours à la shop et le regarder aller voir tout ce qu'il fait. Tabarnouche. Parce que c'est mon frère, parce que je trouve que c'est des dons incroyables. Puis ça, là, je pourrais faire ça avec Gervais, avec Martine, avec peu importe qui. Allez vous voir dans votre milieu, puis vous observez. Parce qu'il y a une grande richesse. Puis c'est là qu'on voit que Dieu est puissant. Quand on cumule les dons, les choses que Dieu nous a données, moi, en tout cas, ça me garde dans l'humilité, hein, s'il vous plaît. Puis ça fait que j'ai envie de bâtir une relation avec mon frère René. J'ai envie de bâtir une relation. Pourquoi? Parce que je le sais que Dieu lui a donné des choses. Je sais que Dieu l'a aimé. René, sur lui, il y a le visage du Christ, le sang du Christ est sur lui. Et nous donne le commandement là, que l'amour fraternel nous lie dans tout ce qu'on va faire. René va peut-être dire une parole qui ne s'en rendra même pas compte à un moment donné, qui, moi, va m'exhorter à fond. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des grandes discussions profondes sur la cible, etc. Mais de passer du temps, de regarder l'autre, de le regarder, de l'écouter. Quand là, Salomon parle à Ecclésiaste, là, l'œil ne se tanne pas de voir, puis l'oreille ne se tanne pas d'entendre. C'est vrai. Puis c'est puissant. Puis c'est un des moyens que Dieu nous a donné pour observer. Puis pire que ça, les yeux en hébreu, là, je ne pourrais pas vous dire comment ça se prononce, là, mais ce que ça veut dire, là, c'est le puits pour aller puiser l'information, pour aller chercher, pour regarder, pour l'amener à notre coco. Dans les deux premiers versets, c'est drôle parce que je les escamotais un peu, là. Ici, on revient, s'il vous plaît, au verset 9. Verset 9.
Okay. Que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien.
En fait, Paul, ce qu'il est en train de dire, il dit deux fois la même affaire. Fuyez le mal avec horreur. Mais si on s'attache au bien, qu'est-ce qu'on fait? On fuit le mal. Puis, dans nos relations, si on est capable, et je souhaite, je prie qu'on soit capable de mettre en priorité la liberté de conscience qui nous est donnée. Parce que n'oubliez pas que la liberté de conscience est une doctrine, c'est un enseignement de la parole. Il y en a qui vont dire Romains 13 aussi. Oui. Mais selon comment on va voir ce qui se passe avec la COVID-19, avec les restrictions qu'ils nous ont données, c'est là où le bas blesse. Et c'est là où on doit approcher nos frères et nos sœurs avec un amour, une patience de plomb, d'acier. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va convertir les autres à notre philosophie de COVID-19. Mais Jean 3,16 ne dit pas « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus, puis en attendant que la COVID passe, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. » Non, 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 non. Puis en passant, Dieu a tant aimé le monde. Agapé. Agapé. Donc, on demeure dans l'amour alliantiel. On n'en sort pas. C'est tellement écrit dans le Nouveau Testament. Puis quand je vous ai dit au début, qu'est-ce que ça fait d'avoir un Dieu trinitaire? C'est facile pour nous autres, en tant qu'êtres humains, oublieux, de sortir de là. C'est l'enfance de l'art. Verset 11, Paul, mon point 2, Paul, je l'ai appelé panneau de signalisation. Bon. Fait que si on peut me lire le verset 11.
D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur.
Là, on arrive, moi j'ai pris les versets 9, 10, 11 et 12. OK? Mais quand si on relisait Romains 12 à partir du verset 1, qu'est-ce qui se passe? Paul nous défile une série d'attitudes. Il nous défile ça, là, puis il nous en donne plein. Là. On pourrait faire un sermon, là, d'après moi, sur chaque mot. Pas chaque verset, chaque mot, parce que c'est tellement riche, c'est tellement profond. Puis là, soudainement, il arrive au verset 11. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent. Ah tiens, il se répète, il dit encore la même affaire. Mais il dit quoi? Servez le Seigneur. Paul, tu viens de nous donner une chute de choses à faire. Puis là, il nous remet ça dans la face. Paul, servez le Seigneur. Donc, de servir le Seigneur dans nos relations, dans nos différences, d'aller vers nos frères et sœurs et dire « Je t'aime, mais tu m'énerves. » Comprenez que je métaphore, là, que j'exagère, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On est appelé à aller nettoyer nos relations. On est appelé à la repentance. Et je pense même qu'on est appelé à la repentance collective. En Église, ici, maintenant. Moi, je vais vous dire, bien franchement, là, aujourd'hui, c'est la résurrection. C'est le premier dimanche du mois, puis tantôt, on a la Sainte-Cène. Moi, je vous dis sincèrement, puis c'est mon humble avis, là, notre Église n'est pas dans un état du tout pour prendre la Sainte-Cène. Quand on lit 1 Corinthiens 11, là, qu'il faut s'examiner, là. Moi, je trouve qu'on n'est pas là. Maintenant, vous avez le choix. On va la passer tantôt, la Sainte Seine, là. Vous aurez le choix. Mais examinez-vous. Parce que je trouve qu'on n'est pas là. Puis mon souhait, ma prière, puis ma demande, ma supplication, autant à Dieu qu'à vous, qu'on prenne un temps, puis qu'on mette les cœurs à jour, puis qu'on se repente, puis qu'on continue à marcher ensemble. Parce que quoi? C'est ça qui nous est demandé. Maintenant, mon dernier point, c'est le mode d'opération. Est-ce qu'on peut lire le verset 12, s'il vous plaît?
Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière.
Joyeux dans la détresse. Dieu a envoyé la COVID-19 pour mettre les cœurs à jour. Si c'est vrai, là, il n'y en a pas un de nous autres qui est mieux que les autres. Puis à part de ça, Dieu nous dit, vous allez être joyeux dans l'espérance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a été justifié en Jésus-Christ. On a été racheté. Puis qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit que j'ai un frère puis une sœur qui ne pense pas pareil à côté de moi, mais qui a été lavé par le sang du Christ. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Les non-dits, les moqueries, c'est du poison vif que l'on bannisse ça de nos habitudes. Le murmure, qu'on soit assez authentique, puis je vais le dire comme ça, qu'on soit assez chrétien pour aller voir nos frères et nos sœurs, puis régler nos conflits avec eux. C'est facile de demander pardon, Seigneur. C'est hyper facile. Mais je vous garantis que si le Seigneur était devant nous autres, il n'y en a pas un ici qui serait capable d'y demander pardon. Parce qu'on l'aurait en face. Puis c'est ça la différence entre le frère et Dieu. C'est dur d'aller s'humilier devant les frères et sœurs. C'est la chose la plus dure. Pourquoi? Parce qu'on se sent sale. On se sent honteux. Et c'est exactement là qu'il faut revêtir l'armure du croyant. Et notre frère n'a zéro droit de nous descendre parce qu'on va s'humilier en avant de lui. Pourquoi? Parce qu'on a été justifié par le roi, le Seigneur. Et c'est lui qui a choisi, qui amènerait dans son peuple. Persévérez dans la prière. Soyez patient dans l'affliction. Je me réjouis de ce que Dieu fasse ménage dans nos cœurs. Honnêtement, là, je trouve ça archi-difficile, parce que je vous l'ai dit, ma semaine, là, pour préparer ce message-là, là, j'ai même appelé Marcel, puis j'ai dit, là, pas sûr que c'est moi qui vais aller prêcher dimanche. Je trouve que ça ne m'appartient pas, ce message-là. Je l'ai fait par la foi. Je l'ai fait sur le conseil de gens qui m'ont encouragé. Puis, écoutez, j'ai appelé Raymond Perron, je ne vous le cacherai pas, là, j'ai appelé Raymond Perron. Quand je vais avoir un avis extérieur, j'appelle Raymond, qui est un excellent conseiller. Et puis, quand je vous parlais de 1 Corinthiens 8 puis Romains 14, là, quand j'y ai parlé, là, c'est exactement les versets qui m'ont sorti. C'est exactement ça. Puis moi, je ne le voyais pas comme lui. Parce que Raymond, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoute, c'est parfaitement le temps, à l'heure actuelle, dans la situation que vous vivez à Mégantic, là, de faire un message sur l'amour fraternel et la sanctification. Et c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on est là. Et mes frères, mes sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. N'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a personne qui est mieux qu'un autre. Et on a travaillé dans la douceur, dans l'amour agapé, dans l'amour filéo, pour maintenir nos relations, même si ça nous brûle. On devrait remercier le Seigneur qui débusque les péchés et les idoles qu'on a dans nos cœurs. Et je vous en conjure qu'on s'organise pour nettoyer le conseil, pas dans le sens de changer les personnes, dans le sens de nettoyer les non-dits, les blessures. Ce qu'il y a à nettoyer doit être nettoyé par l'amour et pour l'amour et dans l'amour du Christ. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité aujourd'hui. Et Jésus nous a donné un exemple incroyable de sanctification et d'amour. Mais avant, j'aimerais ça finir sur deux petites affaires. Quand Paul parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, tout le monde connaît 1 Corinthiens 13. Évidemment, c'est l'amour agapé. Tout le long du chapitre de 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu, l'amour alliantiel, l'amour saint, l'amour parfait. Et Paul est en train de dire, écoute, premièrement, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. La deuxième chose qu'il dit, il dit, écoute, la foi, l'espérance, ça va tout passer. Puis qu'est-ce qui va rester? L'amour. Hey, en passant, une petite question. Juste pour la fun, là. Quel est le plus grand attribut de Dieu?
Sainteté.
Amen! 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 Voilà. Donc, l'amour vient avec quoi? La justice. L'amour vient avec la miséricorde, la compassion, la colère. La sainteté. Donc, quand on vient au fameux Jean 3,16, là, car Dieu a tant aimé, là, des fois, dans certaines églises, on entend ça, là, Mais Dieu, il t'a tellement aimé, il n'était pas capable de te laisser aller en enfer. C'est pour ça qu'il... Hey. On n'a pas un Dieu mauviette, là. On a un Dieu juste, un Dieu fort, un Dieu jaloux, puis un Dieu qui va se respecter. C'est drôle à dire de même, mais Dieu va se respecter, lui. Il ne peut pas se respecter. Alors, tout ça pour dire que l'amour va rester. Donc, imaginez, quand on voit être dans nos corps glorifiés, quand on voit être dans le royaume, à côté de Christ, qu'on va le voir, qu'on va regarder, l'interpénétration du début, là, du Dieu trine, là, on va la récupérer. C'est ça qu'on va goûter. On va savoir. 1 Corinthiens 13 le dit. On va comprendre, on va voir comment on a été connu. Je vais connaître parfaitement. Ça ne sera pas juste à travers un miroir. Mais en attendant, vu qu'on est sur le plancher des vaches, je vais revenir à ma question. Vu qu'on est sur le plancher des vaches, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un cultivateur doit faire pour produire du lait?
Avoir une relation avec ses vaches.
Prendre
soin.
Ouais. Mettons, je vais y aller pas mal plus direct que ça. Faut qu'il pèle du fumier. Tu comprends? C'est bien beau, là, le cultivateur, lui, il dit, bon, c'est mes vaches, là, on va pelleter mon fumier. Fait que, tu sais, il s'implique pas trop dans la dynamique. Mais nous autres, en tant que croyants, là, quand il faut qu'on pèle le petit tas de notre frère et notre soeur, là, des fois, on oublie que nous autres, on est A. Tu comprends? C'est l'image. C'est une image bien... On pourrait dire quasiment plate ou presque vulgaire. Oui. Mais c'est ça pareil. Qu'on le veuille ou pas, on est là. Puis c'est pour ça que Paul va dire
« Endurez-vous les uns les autres. Ouais, mais il pue.
Ouais, toi aussi, tu pues. Endure-les. » Tu comprends? On est là. On est exactement là. On est dans ce point de friction. On est exactement dans le cœur de ça. Puis là, là, je vais vous donner un... Ma sœur a parlé avec un Africain qui vient de la Côte d'Ivoire. Là, il pose la question. Toi, vous autres, dans votre pays, la COVID, là, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est, les restrictions sanitaires, tout ça? Le gars, savez-vous ce qu'il a dit? Il dit, nous autres, on est tellement occupés à survivre qu'on n'a pas le luxe. Le luxe, c'est fort, là. On n'a pas le luxe de respecter les choses sanitaires parce que si on ne va pas au marché vendre nos légumes qu'on produit dans notre cour, on ne mange pas. On ne mange pas. On ne vit pas des grosses persécutions, là. On n'est pas en train de se faire tirer dessus à coups de dose parce qu'on croit en Jésus, là. Puis tantôt, j'entendais qu'on voulait parler d'évangélisation. Ça veut dire quoi, hein, parler de l'évangélisation? Ultimement, on aimerait savoir des nouveaux croyants dans notre assemblée. On a du pain sur la planche. Fait que j'aimerais ça finir avec Philippiens 2. L'exemple ultime de sanctification. Le texte pour moi, c'est un grand texte au niveau de l'amour, au niveau du don de soi. Parce que n'oubliez pas les frères et mes sœurs, hein? Les apôtres se sont fait dire par le Christ lui-même, les prostituées et les pécheurs vont vous devancer dans le royaume. On est-tu prêt à accueillir une prostituée? On est-tu prêt à accueillir un transgenre? On est-tu prêt à accueillir quelqu'un qui consomme de la dope? Puis pourtant, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de notre assemblée. Fait que si on peut lire Philippiens 2, s'il vous plaît.
Philippiens 2, verset 1 à 8, dans la version second 21. S'il y a donc de l'encouragement en Christ... S'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
Frères et sœurs, on a des petits-enfants qui s'en viennent. On a des bébés. Et j'espère que chacun d'entre nous on sera là pour les soutenir et les aimer selon la volonté de Dieu. Le message que j'ai fait ce matin, si vous avez des incompréhensions, si je vous ai blessé, venez me voir. Ce n'était pas mon intention. Puis si je l'ai fait, je vous demanderai pardon. Le message que j'avais sur mon cœur est un message de minuit moyenne. Qu'on opère en Église la sanctification dans nos relations par la repentance, le pardon et la confession. Dans la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus, du Père qui nous a élus et de l'Esprit qui opère l'histoire de la rédemption. Amen.
Amen.
Amen.